Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 16h à Paris, 14h temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
Un éventuel cessez-le-feu, un rendez-vous entre présidents russes et ukrainiens et un échange important de prisonniers. Voilà les trois grands dossiers évoqués lors des discussions entre l'Ukraine et la Russie en Turquie à la mi-journée. 1h40 d'entrevue environ entre les deux délégations. C'était les premières négociations directes entre les deux belligérants depuis le printemps 2022. L'Ukraine également au centre des discussions du sommet de la communauté politique européenne organisé à Tirana en Albanie. Plusieurs dirigeants de poids lourds de l'Union européenne était présent, notamment Emmanuel Macron, le président français. On s'intéressera aussi à ces 340 km de marche de soutien des partisans d'Evo Morales, l'ancien dirigeant bolivien inéligible pour le scrutin présidentiel du mois d'août. Mais ses sympathisants veulent croire qu'il sera quand même candidat. Et puis, la Banque mondiale reprend ses programmes d'aide à la Syrie. Le premier volet de ce soutien sera consacré à l'accès à l'électricité dans le pays. Une reprise de contact qui aura duré environ 1h40. Trois points ont principalement été discutés lors des échanges qui se sont terminés en début d'après-midi entre les délégations ukrainiennes et russes à Istanbul, selon leurs représentants respectifs, à savoir la possibilité d'instaurer un cessez-le-feu, l'organisation d'une possible rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine et un échange de 1000 prisonniers de chaque camp. Ces premières négociations directes entre les deux belligérants depuis le printemps 2022, elles sont aussi au cœur du sommet de la communauté politique européenne à Tirana. 47 pays sont représentés. Volodymyr Zelensky, justement, s'y trouve, le dirigeant ukrainien qui a appelé à maintenir la pression sur Moscou, Raphaël Delvolvé.
L'absence en Turquie de Vladimir Poutine ne rendait guère optimiste le président ukrainien. Avec la délégation russe finalement envoyée, c'est encore pire. Volodymyr Zelensky.
Il s'avère que la délégation russe n'est qu'une simple représentation théâtrale et ne peut produire aucun résultat. Nous devons avoir une réaction forte avec des sanctions incluant le secteur de l'énergie russe et leurs banques.
Le président français, comme les Occidentaux, doute aussi des intentions de son homologue russe. Emmanuel Macron appelle à accroître la pression.
Les dernières heures ont montré que la Russie n'avait pas envie de cesser le feu. Et s'il n'y a pas une pression accrue des Européens et des Américains pour obtenir ce résultat, il ne sera pas spontané.
Le chancelier allemand Friedrich Merz, quant à lui, se veut un peu plus optimiste.
La rencontre d'Istanbul, la première en 3 ans et demi, constitue un signal positif, certes tout petit, mais positif.
Si les 27 réfléchissent à de nouvelles sanctions contre la Russie sur l'énergie et le système financier, rien ne se décidera ici en Albanie où l'on discute essentiellement. En début d'après-midi, les dirigeants de la coalition des volontaires France, Allemagne, Royaume-Uni et Pologne se sont entretenus avec le président ukrainien. Raphaël Delvolvé, Tirana, RFI.
Volodymyr Zelensky et les 4 dirigeants européens mentionnés par Raphaël Delvolvé à l'instant qui se sont aussi entretenus par téléphone avec le président américain Donald Trump. Depuis ce sommet de Tirana, Emmanuel Macron a aussi pris la parole pour dénoncer des ingérences qui sapent, selon lui, l'intégrité de nos démocraties. Et le président français a cité l'exemple de la Roumanie. C'est la main de la Russie, justement, qui est soupçonnée d'avoir interféré dans le scrutin roumain du 24 novembre dernier, menant à son annulation, vote reporté donc. Le second tour se tient ce dimanche. Arrivé en tête du premier tour, le candidat d'extrême droite Georges Simion, proche des idées de Moscou, qui s'est dit aujourd'hui persuadé d'être élu président, et face à lui, Nikouchor Dan, le pro-européen, qui appelait hier ses soutiens à se mobiliser dans la capitale Bucarest. Muriel Paradon.
Distribution de tracts à la sortie du métro en plein cœur de Bucarest. Les partisans de Nikouchor Dan tentent de convaincre les indécis d'aller voter pour leur candidat avec parfois des accrochages avec les passants. Mais pour Radu, il faut continuer à mobiliser. Nikouchor Dan représente, selon lui, une chance de changement pour la Roumanie.
Il a fondé un parti qui veut lutter contre la corruption, qui défend la méritocratie, l'état de droit, pas la politique qu'on a eu l'habitude de voir avant dans les Balkans.
Nikouchor Dan est aussi, contrairement à son adversaire de l'extrême droite, un candidat pro-européen. Et pour Anna, 36 ans, c'est primordial.
Il représente l'Europe et nos valeurs de la liberté. La Roumanie part de loin et on a beaucoup avancé par rapport à quand j'étais petite. Je ne veux pas revenir à l'ère du communisme ou connaître la censure et la dictature. L'Europe, c'est ce qu'on veut.
L'Europe et la Roumanie qui doivent continuer à soutenir l'Ukraine, comme le préconise Nikouchor Dan, à l'inverse de son adversaire, Mihai, un avocat de 40 ans, est pour.
Soutenir l'Ukraine, c'est soutenir la Roumanie. Car si l'Ukraine s'écroule, après ce sera le tour de la Moldavie et après ce sera à nous.
Selon ces militants, voter à la présidentielle pour le candidat pro-européen, c'est tout simplement un choix pour la démocratie. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
Un succès Masra détenu pour son implication présumée dans les affrontements meurtriers de mercredi au sud du Tchad. L'ex-premier ministre aurait lancé des appels à la haine et incitation à la violence ayant conduit au massacre de 42 personnes dans un village. Selon le procureur de la République qui s'exprimait ce matin pour justifier l'interpellation à l'aube du chef du parti Les Transformateurs, l'opposant qui se trouve toujours à la coordination de la police judiciaire de N'Djamena. Lui est accusé de détournement de mineurs et de traite d'êtres humains en Bolivie. Les partisans de l'ancien président Evo Morales sont partis hier à pied du centre du pays pour une marche de soutien 340 km et ce afin d'appuyer sa candidature à l'élection présidentielle qui doit se tenir au mois d'août, même si Evo Morales a été déclaré inéligible par la Cour constitutionnelle. Vincent Sorudo.
Oui, ses supporters ont quitté hier son fief, la ville de Parotani dans le centre de la Bolivie, à pied mais aussi pour certains en bus ou en voiture. Evo Morales avait prévenu le mois dernier, qu'il s'apprêtait à défier le pouvoir en place et qu'il se rendrait bel et bien dans la capitale pour s'enregistrer comme candidat à la présidentielle. Est-il physiquement présent au sein de ce cortège ? Impossible à dire pour l'instant. Les journalistes boliviens qui ont cherché à l'identifier parmi les manifestants ne l'ont pas trouvé. Mais c'est sûr, il va chercher à rejoindre La Paz sans se faire repérer, car les autorités boliviennes l'attendent de pied ferme. Le gouvernement l'appelle d'ores et déjà à se présenter devant la justice, car il fait toujours, comme vous le disiez Paul, l'objet d'un mandat d'arrêt et d'une enquête dans le cadre de ce dossier de trafic d'êtres humains, dossier qu'il considère comme une manipulation politique, mais que l'exécutif, pour sa part, entend bien mener jusqu'à son terme. Si vous êtes vu dans les rues de La Paz, préviennent les autorités à l'intention d'Evo Morales, vous serez appréhendé par la police. Ses opposants l'accusent de vouloir faire trembler le pays en créant de la violence et des troubles à l'ordre public.
Vincent Sorio, merci à vous. C'est une bouffée d'oxygène pour les Syriens. La Banque mondiale annonce cet après-midi redémarrer ses programmes d'aide pour la Syrie, et ce après le paiement d'une dette syrienne par l'Arabie Saoudite et le Qatar. L'institution financière qui précise que le premier volet de son aide concernera l'accès à l'électricité. 6 jours que les armes se sont tues en Inde et au Pakistan, le bruit politique en revanche n'a pas cessé. Le versement $1 milliard accordé il y a une semaine par le Fonds monétaire international au Pakistan sera utilisé pour financer le terrorisme. C'est ce qu'indique le gouvernement indien. Aujourd'hui, ce prêt a reçu le feu vert du FMI en raison de la mise en œuvre vigoureuse du programme d'austérité lancé en 2022 par Islamabad, et ce après que le pays ait frôlé la faillite. La fin du calendrier approchait, mais le Parlement fédéral belge a choisi un virage à 180 degrés. Sa chambre basse, la Chambre des représentants, a décidé d'annuler la sortie programmée du nucléaire, un processus qui avait été voté avec une loi de 2003, texte qui prévoyait pourtant que la Belgique mette à l'arrêt ses réacteurs et cesse de construire de nouvelles centrales cette année, en 2025. Pierre Benazet.
En Belgique, c'est une page d'histoire vieille d'un quart de siècle qui se tourne. En 1999, pour la première fois depuis sa création, le parti écologiste entre dans une coalition gouvernementale à une condition, l'abandon du nucléaire. Le temps de finaliser le programme, la loi est votée en 2003. Elle prévoit, à l'horizon 2025, la fermeture des 7 réacteurs belges dans les 2 centrales nucléaires, une en Wallonie, une en Flandre. Mais quelques mois plus tard, les écologistes quittent le gouvernement fédéral et les gouvernements suivants n'auront plus besoin d'eux pour former des coalitions majoritaires. Ils s'empressent de mettre la loi de sortie entre parenthèses, ce qui avait été prévu en cas de menace pour l'approvisionnement énergétique. L'accident nucléaire de Fukushima en 2011 ravive l'opposition au nucléaire civil, mais les menaces de coupure de gaz par la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine sont passées par là. La relance du nucléaire est devenue une priorité d'un des partis de centre-droit désormais au pouvoir. La loi de sortie du nucléaire est donc abrogée et la Belgique rejoint donc l'Italie, les Pays-Bas ou la Suède, qui ont aussi décidé de renouer avec les centrales nucléaires. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et puis Mayotte connaît une recrudescence des cas de chikungunya. 176 contaminations ont été enregistrées depuis la fin mars, selon Santé publique France, qui note une forte accélération de l'épidémie. Fin avril, aucun décès n'a été recensé. RFI, 16h10 à Paris, 14h10 temps universel.